Bon, bonjour à tous. On va commencer donc cette conférence. Bon, en voilà d'autres. Tu parles, ils sont à la bourre, je leur dis pas bonne année.
Tu dis pas bonne année?
Non.
Tu dis mauvaise année?
C'est toujours affreux. Bon. Allez, sérieusement, bonjour à vous. Donc, on va commencer cet ensemble, ce nouveau cycle de conférences, les ateliers du chercheur, tels qu'on les nomme, en accueillant aujourd'hui Estelle Dalloy. Donc, merci à toi d'être venue jusqu'à nous et merci au Centre Mendès France de nous accueillir. Estelle Dalloy est chercheure à l'Université de Rennes. Je dis pas de bêtises. Nantes, oh, c'est toujours pareil. C'est la Bretagne. Donc, Estelle Dalloy est chercheure en Bretagne et a publié un ouvrage que je ne cesse de recommander aux étudiants dans une belle collection, mais surtout un très beau texte qui s'intitule « Les épreuves de l'asile, associations et réfugiés face aux politiques du soupçon ». Cette collection, alors sans en faire forcément l'apologie, me semble-t-il, est une bonne collection qui permet de présenter des travaux doctoraux et dans une perspective qui, à mon avis, n'est pas celle d'une vulgarisation, mais qui est plutôt dans celle d'une continuité des recherches et qui souvent offre des ensembles de lecture extrêmement pertinents. Donc j'espère que les étudiants ont l'habitude de maintenant d'aller voir ce qui sort à ces éditions, et je trouve que cet ouvrage-là illustre très bien la pertinence de ces éditions. Ce travail est issu d'un travail de doctorat soutenu à l'École des hautes études en sciences sociales. Le lieu n'est bien évidemment pas inconnu des étudiants de sciences humaines et sociales. Donc, merci à toi pour présenter tes travaux. On discutera ensuite. Je tiens à dire d'un point de vue technique aux étudiants qu'il faut signer la feuille de présence qui est là. Je ne la fais pas passer, mais je vais vous compter avec mon œil de gavial pour voir si vous êtes bien tous là. Et ensuite, c'est vire. Mais aussi, je vous souhaite mes meilleurs voeux. Donc, merci à vous.
Donc, ça marche. Bonjour à tous. C'est moi qui vous remercie d'avoir l'occasion de présenter mon travail, puisque c'est toujours un moment qu'on apprécie quand on a passé un temps de recherche relativement conséquent en thèse, de pouvoir à un moment donné discuter de, à la fois de la manière dont la recherche s'est produite, parce que c'est ce qui m'a été demandé aujourd'hui, et puis de quelques-uns des résultats, pour pas non plus vous laisser sur seulement des questions. Donc merci encore de votre accueil ici. Alors, je vais essayer de faire avec le diaporama. Je m'y mets. Je suis d'une génération qui s'y met tranquillement, mais je ne suis pas encore tout à fait au point. Donc, pour commencer, il me semblait qu'il fallait quand même présenter quelques éléments pour vous dire comment cette recherche est née et à partir de quel constat. Donc, vous n'êtes pas sans savoir, puisque c'est un sujet fortement médiatisé, qu'il y a eu un accroissement du nombre d'exilés dans le monde conséquent depuis une quarantaine d'années. Parmi les 200 millions qu'on comptabilise de migrants, on comptait en 1975 2,34 millions de réfugiés. On en compte aujourd'hui 15 millions, et cela sans compter les déplacés internes et les demandeurs d'asile qui donc déposent une demande d'asile dans l'espoir d'être reconnu réfugié. On a un nombre croissant d'exilés dans le monde, mais le phénomène qui caractérise proprement ce XXe siècle, c'est que c'est un accueil qui est de plus en plus régulé et que progressivement un droit international a été élaboré, hein, les gouvernements se sont concertés et des textes internationaux ont été élaborés, et précisément ce droit d'avoir des droits invoqué par Hannah Arendt a progressivement été élaboré et principalement assis sur la Convention de Genève de 1951, mais pas uniquement. Il y a d'autres textes juridiques qui régulent ce sort des réfugiés dans le monde. Mais on va dire qu'en France, ça reste quand même un des éléments importants sur lequel le droit d'asile est assis. Alors pour autant, si les réfugiés ont acquis un droit d'avoir des droits, sa mise en œuvre est différenciée dans le monde. Et c'est un élément important, c'est-à-dire que ce dont on va parler aujourd'hui, on pourrait dire que c'est un tout petit bout de la lorgnette, et ça n'est qu'un tout petit bout de la lorgnette. Donc cette mise en œuvre différenciée dans le monde, elle se fait dès les premiers temps de la Convention de Genève. Donc il y a des auteurs qui ont travaillé sur ces questions. Je pense à quelqu'un qui s'appelle Kelly, qui a bien mis en évidence comment, dès les années 50-60, on a deux régimes différenciés de traitement des réfugiés. Un au sud qui est plutôt caractérisé par un rôle très important de l'UNHCR, des organisations internationales, et un traitement qui n'est pas toujours un traitement de masse, mais qui l'est bien souvent, avec le principe de l'encampement qui est très important, et puis qui est à la fois un dispositif humanitaire et un dispositif de contrôle. Et dans les pays d'Europe, à l'époque, surtout d'Europe de l'Ouest, un traitement individualisé. Alors là aussi, parfois il y aura des modes collectifs d'accueil, mais globalement, le plus souvent, un traitement individualisé de la demande d'asile par une bureaucratie nationale, telle qu'en France, on la connaît, donc l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, dit OFPRA, qui en première instance reçoit les demandes d'asile et les évalue, et en deuxième instance, ce qu'aujourd'hui on appelle la Cour nationale du droit d'asile, et qui à l'époque de ma recherche appelait encore la Commission des recours des réfugiés. Donc on a cette mise en œuvre différenciée dans le monde, et donc je me suis intéressée pour ma part au système de l'asile français. Et ne serait-ce que pour ce système de l'asile français, on n'a pas seulement donc des différences, on pourrait dire, d'inscription dans l'espace, mais on a aussi une mise en œuvre très différente du droit d'asile selon les contextes historiques. Donc on peut dire que le mouvement, c'est toujours une difficulté de retracer à grand trait 50 ans d'histoire, parce que forcément on n'est pas tout à fait dans la nuance. Mais si on essaye quand même d'examiner certaines évolutions historiques, il apparaît que... À la fois, je reprends des propos qui m'ont été tenus par les acteurs qui ont travaillé dans les institutions qui s'occupent des demandeurs d'asile. À la fois, on a une période d'après-guerre qui est souvent reconstruite comme les 30 glorieuses des réfugiés, même si ce n'était pas forcément le cas, mais qui, dans l'esprit, apparaît, et surtout dans les acteurs qui ont été à l'OFPRA ou à la Cour nationale du droit d'asile dans les années 50 à 70, comme une période où le nombre de réfugiés était en baisse progressivement après la guerre, où la demande d'asile était majoritairement acceptée à l'époque. On avait 9 demandes d'asile sur 10 qui étaient acceptées, et en première instance, le plus souvent, c'est-à-dire sans avoir à faire un recours. Et une période où cette demande d'asile, d'ailleurs, n'était pas systématiquement invoquée par des personnes qui cherchaient une protection, parce qu'on était aussi dans le cadre d'une politique d'accueil relativement libérale en termes de main-d'œuvre. Et puis des réfugiés dont le profil était un petit peu différent, puisque pour beaucoup, quand on regarde les travaux de Aline Angousture, il s'agissait de réfugiés d'origine européenne, dont la figure était fortement valorisée, parce qu'il s'agissait pour certains, de réfugiés venus de l'Est, et donc dans le cadre d'une guerre idéologique, ça pouvait apparaître valorisant pour cette Europe de l'Ouest d'accueillir ces réfugiés. Donc on passe de ces 30 glorieuses des réfugiés à un moment où que nombre d'auteurs appellent la crise de l'asile. Alors pour autant, hein, si on regarde la période antérieure, les conditions d'accueil hein, pour ces réfugiés n'étaient pas forcément toujours très satisfaisantes. Donc c'est pour ça aussi qu'il faut relativiser ce terme de crise. Mais effectivement, il y a des mutations qui s'amorcent dans les années 80 qui méritent tout de même d'être pointées et d'être regardées. Donc à partir de ces années 80, on entre dans une conjoncture économique et sociale nettement moins favorable à l'accueil des réfugiés. Hein. On a un moindre appel à la main-d'œuvre, enfin en tout cas de manière légale, et on a des politiques qui sont restrictives en matière d'immigration de travail et qui ne seront pas sans effet sur la manière d'accueillir les demandeurs d'asile. On est dans une conjoncture où, comme vous le savez, les partis xénophobes commencent aussi à avoir des scores électoraux plus importants en France. Et cela n'est pas non plus sans jouer sur la manière dont les demandeurs d'asile seront accueillis. Pour autant, il ne faudrait pas réduire les politiques de l'époque dans ces années 1900, enfin, qui partent des années 80, fin des années 70 jusqu'à aujourd'hui, à uniquement des politiques de contrôle ou de dissuasion à l'endroit des demandeurs d'asile, parce qu'il y a un autre versant hein, de la politique qui est celui de la consolidation d'un certain nombre de droits sociaux et sanitaires pour les demandeurs d'asile et les réfugiés. Et un moment où, par exemple, on a l'élaboration d'une politique d'accueil national, avec l'élaboration d'un dispositif national d'accueil suite aux mobilisations d'un certain nombre d'associations qui vont assurer dans les textes, au moins, le droit à un hébergement au foyer financé par l'État, par exemple, pour les demandeurs d'asile et les réfugiés. Donc du coup, on est plutôt face à une politique française de l'asile qui est ambivalente, marquée à la fois par un volet d'assistance et puis aussi par un volet plus dissuasif, puisqu'un certain nombre de mesures seront prises hein, à partir des années 90. On dissociera les centres provisoires d'hébergement qui seront pour les réfugiés uniquement désormais des centres d'accueil pour demandeurs d'asile où seront les demandeurs d'asile. On supprimera le financement de l'apprentissage pour le français pour les demandeurs d'asile et on le réservera aux seuls réfugiés. Il y aura un certain nombre de notions hein, qui vont circuler à l'échelle européenne qui vont contribuer à rendre plus difficile le dépôt d'une demande d'asile et à complexifier les procédures, comme la notion de pays d'origine sûr, comme la notion de demande manifestement infondée. Le filtre des préfectures va être de plus en plus important hein, pour pouvoir déposer sa demande d'asile. Donc il y a un certain nombre de mutations qui sont bien documentées et qui constituaient le paysage, on pourrait dire, de l'asile au moment où j'ai entamé ma recherche de doctorat. Et puis, dernier point à connaître, au moment où j'ai démarré cette recherche, au début des années 2000, donc ça commence à dater un peu et il y a beaucoup de choses qui mériteraient d'être réactualisé, c'est qu'on a une politique d'accueil qui est déléguée, hein, qui a été déléguée dans le cadre de la Convention de 1975, justement, qui a élaboré le dispositif national d'accueil pour les demandeurs d'asile. On a une politique qui a été déléguée au secteur associatif, avec France Terre d'Asile qui coordonnait hein, le dispositif national d'accueil. Alors, bon, ça, je vous ai mis une petite carte, juste parce que je trouve que c'est toujours bien de rappeler. Tout à l'heure, je vous ai dit que c'était la France était, et ce terrain français, c'était vraiment juste une lucarne sur cette question de l'asile. Et précisément, quand on regarde hein, les mouvements de réfugiés déplacés internes, donc ici, c'est une carte de 2009, on s'aperçoit combien la France, là, n'est vraiment qu'une toute petite lucarne et combien les principaux pays d'accueil reste bien souvent les régions près desquelles les régions d'où sont issus majoritairement les réfugiés. On voit aussi à travers le graphique hein, le nombre important de déplacés internes qui a augmenté ces dernières années. Alors, c'était une introduction un petit peu longue, hein, juste pour poser les cadres. Donc, comment j'ai pensé cette communication ? Je l'ai pensé par rapport à une commande qui m'avait été un petit peu faite, à savoir que l'idée, c'est qu'un certain nombre d'entre vous qui êtes ici, vous démarrez ou vous êtes dans une recherche. Et de ce fait-là, c'est toujours intéressant d'avoir quand même quelques éléments sur... plutôt comment une recherche est produite, comment elle s'élabore et qu'est-ce qui finalement nous conduit à un moment donné à adopter tel ou tel terrain, telle ou telle manière d'appréhender une question. Donc juste faire un point sur comment j'ai construit la problématisation de cette recherche, donc à partir d'un état des lieux qui sera forcément sommaire, hein, parce qu'il y a beaucoup de travaux en fait sur les réfugiés, les demandeurs d'asile, et il y a eu une énorme production de recherches dans le moment même où moi-même j'effectuais la recherche. Donc du coup, c'est impossible de faire une synthèse exhaustive, mais je vous dirai un petit peu comment j'ai essayé de voir où étaient les angles morts et pourquoi j'ai posé un certain nombre ensuite de questions hein, qui ont donné lieu à cet ouvrage. Donc je vous présenterai trois axes de questionnement et ensuite je m'arrêterai sur un de ces axes qui est la place croissante de l'expertise médicale dans la procédure d'asile. Donc le rôle croissant de médecins qui sont à la fois des soignants et des experts, parce que souvent ce sont des médecins d'associations bien connues pour le soin qu'elles fournissent aux exilés, qui sont conviés à mener une expertise pour des demandeurs d'asile dans le cadre de la procédure d'asile en France. Donc l'idée, c'est une des questions que j'ai explorées dans cet ouvrage, c'est de revenir sur... comment progressivement je me suis interrogée sur cette question de l'expertise et plus particulièrement comment j'ai fait pour essayer de mieux comprendre les enjeux qu'il y avait autour de cette expertise médicale, sachant que c'est une recherche, enfin, ce versant de la recherche, je l'ai effectué aussi avec d'autres chercheurs, notamment Didier Fassin et Richard Reichmann. Donc, un premier point. Au moment où j'ai commencé la recherche, je vous en ai dit un mot en introduction, mais il y avait déjà beaucoup de choses sur ces politiques, on pourrait dire sécuritaires. En plus, vous voyez, 2001, rapidement, il y a eu aussi toutes les recherches qui sont questionnées sur les effets du 11 septembre, sur les mobilités et sur les mesures insécuritaires à l'endroit des mobilités humaines. Il y avait un certain nombre de recherches qui étaient amorcées hein, sur le contrôle des flux migratoires, des recherches souvent hein, par le haut, je dirais, hein, où on essayait d'appréhender en quoi ce nouveau contexte international, depuis notamment hein, aussi la fin du glacis Est-Ouest, ce nouveau contexte international avait pu engendrer un renouveau des politiques à l'endroit des mobilités humaines. Donc que ce soit les travaux de Crépeau, de Bigot, de Virginie Gorodon, j'ai pas cité tout le monde, hein, de Julien Laferrière, de plus récemment... des mutations importantes qui sont liées à l'européanisation des politiques d'immigration et d'asile, on avait un certain nombre de travaux qui faisaient ce constat et finalement il n'y avait pas forcément besoin de poursuivre là-dessus puisqu'un certain nombre de travaux étaient engagés. Deuxième chose, il y avait un certain nombre de travaux qui s'intéressaient, puisque moi je m'intéressais à la question du droit d'asile en France, qui s'intéressaient aux opérations de classement de l'État, comment la catégorie de réfugiés s'était progressivement différenciée, hein, d'autres catégories étrangers, immigrés, et notamment hein, le formidable travail fait par Gérard Noiriel sur l'histoire de la bureaucratie en charge de l'évaluation de la demande d'asile. Donc on avait ce socle, hein, ce travail important. Mais là encore, au moment, parce que vous voyez les dates, hein, au moment où j'ai commencé la recherche, on n'était pas du tout sur une sociologie des pratiques quotidiennes dans ces institutions. Ça, c'est venu après. C'est quelque chose que j'aurais bien aimé faire à l'époque, mais quand j'ai toqué à la porte de l'OFPRA et de la Cour nationale du droit d'asile, ce n'était pas possible à ce moment-là. Il y a eu une fenêtre d'opportunité un peu plus tard, et fort heureusement, Karen Akoka a su se saisir cette opportunité et faire un travail très, je trouve, très précieux sur cette institution qu'est l'OFPRA. Il y a eu aussi le travail là de Jérôme Valluy sur la Cour nationale du droit d'asile, qu'il a accompli dans une position un peu particulière puisqu'il y avait été lui-même juge assesseur. Donc on avait des travaux qui à l'époque n'étaient pas sur les pratiques quotidiennes et qui par contre depuis hein, ont été largement complétés par ceux de Karen Akoka et de Jérôme Valluy. Par contre, à l'échelle internationale, on avait un certain nombre de travaux qui s'intéressaient justement à ces institutions, mais plus de l'intérieur et plus du point de vue des pratiques. Donc ce qui m'avait donné aussi l'envie d'aller voir ce qui pouvait se passer en France, en quoi il y avait un traitement ou non différent de ce qui avait été observé par Barsky, Blomhaus, Crépeau, Marins. Donc essentiellement des travaux menés au Canada, en Amérique du Nord. Mais bon, comme je vous l'ai dit, à l'époque, ça n'était pas possible. Alors, toujours dans ce champ, hein, on avait un certain nombre de travaux intéressants autour de l'activisme juridique des associations de migrants, puisque je m'intéressais à la question du droit. Il y avait aussi la question que je me posais de qu'est-ce qui avait été fait sur des acteurs qui ne sont pas forcément des avocats, qui ne sont pas forcément des institutions qui jugent, mais que sont les acteurs associatifs qui peuvent aussi, à un moment donné, avoir part dans ces procédures. Et donc, on avait des travaux faits, pas sur l'asile hein, spécifiquement, mais sur justement comment le droit avait pu être mobilisé par des associations de migrants en France. Et donc, je pense aux travaux de Liora Israel, mais il y a aussi des travaux aux États-Unis de Suzanne Koutine qui sont relativement intéressants. Et là, je m'apercevais dans ces années 2000 qu'il n'y avait pas grand-chose sur la manière dont dans ce champ des procédures liées à l'immigration, on avait pu avoir aussi un activisme que je pourrais dire médical, de médecins qui, à un moment donné, vont utiliser leur expertise pour essayer de contribuer au processus de reconnaissance hein, de migrants, ou là, ici, de demandeurs d'asile dans le cadre de la procédure d'asile. Il y avait des choses qui avaient été faites tout de même par Didier Fassin dans le cadre de la régularisation pour soins, mais pas grand-chose dans le cadre du droit d'asile. Et c'est venu un petit peu plus tard au niveau anglais. On a aussi aujourd'hui une recherche qui a été menée par Anthony Good sur ces questions d'expertise médicale dans le système de l'asile anglais. Mais c'est venu plus tard. Et puis, enfin, on avait bien sûr, hein, il y a des monographies sur des communautés, il y a des récits d'expériences de réfugiés. Hein, il ne s'agit pas du tout de relativiser tout ce qui a pu être produit de ce point de vue-là. Il y a une grande littérature. Mais je n'avais pas trouvé spécialement de choses sur l'expérience du système, c'est-à-dire comment des demandeurs d'asile vivent la procédure, vivent ce rapport à de multiples institutions d'accueil, que ce soit le secteur associatif ou ces institutions bureaucratiques qui évaluent leurs demandes. Et c'est ce qui m'intéressait. À l'époque, en France, c'était peu exploré. C'était un peu exploré, cette question hein, de du traitement par les associations, par les demandeurs, dans une thèse faite sous la direction de Noiriel par Massé, mais il était plutôt dans la question de comment une politique publique s'était élaborée. Alors il y avait un petit peu de littérature grise, de mémoire, hein, qui avait été quand même produit sur cette question. Mais j'avais pas trouvé d'ouvrages qui tiennent un peu tous les bouts. Et c'est venu quand même, alors c'est pareil, hein, pour ceux qui font une recherche, faut le savoir, il y a des moments où on a des petits moments de découragement parce qu'on est sur une piste. Et puis d'un coup, il y a un ouvrage qui sort et tout ce que vous êtes en train de construire, en fait, vous le lisez dans l'ouvrage, on vous dit, bah, il faut que je trouve à aller plus loin parce que ça a déjà été dit, je ne suis plus très originale dans le champ de la recherche, quand même c'est un but d'arriver à montrer des choses un petit peu nouvelles, même si on ne fait pas que ça. Hein. Et à cette époque-là, justement, en plein milieu de la recherche, il y avait eu l'ouvrage de Belkis et d'autres chercheurs qui était sorti sur ce rôle des associations, qui a été un premier jalon qui m'a pas mal aidé dans mon travail sur l'accès au droit. Mais justement, ce qui manquait dans cet ouvrage, c'était l'observation des pratiques quotidiennes, un peu une perception du dedans sur les activités, parce que précisément, ils avaient fait quelques entretiens, mais on voyait pas vraiment ce qui se jouait entre les acteurs associatifs et les personnes qui demandaient l'asile dans ces associations. Et puis parallèlement, il y a un travail qui a été relativement complémentaire. On était dans le même laboratoire de Carolina Kobelinski, mais qui s'est fait en même temps que ma thèse sur les centres d'accueil pour demandeurs d'asile, qui éclaire aussi beaucoup de choses sur ces aspects-là et qui a été produit depuis. Donc ça, c'est pour un petit peu l'état de l'art, ce qui s'est produit aussi un petit peu depuis sur ces questions et par avance... je m'excuse de ne pas pouvoir rendre compte de tout. Et donc, tout ça pour venir à un deuxième point qui est quels ont été, de ce fait-là, les axes de questionnement que j'ai privilégiés et qui, finalement, font la matière hein, de ce livre. Donc, ce qui m'intéressait, vous l'avez compris, c'est les usages sociaux contemporains du droit d'asile en France. Hein. Et le premier élément que je voulais interroger, c'était je vous l'ai dit, hein, les institutions qui évaluent la demande d'asile m'intéressaient bien, mais ça n'a pas été possible. En même temps, à l'époque, je m'intéressais beaucoup aux questions de soins. Ma thèse au départ n'était pas du tout, là-dessus. Enfin, au départ, je pensais prolonger des travaux que j'avais menés sur les missions de psychiatrie humanitaire en Palestine, donc auprès des réfugiés. Et puis, j'avais essayé justement de voir au départ quel était le rôle, comment en France des associations s'étaient intéressées à cette question de la santé mentale des réfugiés, comment cela avait émergé, mais je ne m'intéressais pas à la procédure du droit d'asile et à l'expertise. Et c'est venu d'une rencontre, c'est là où, comme on entre dans la cuisine du chercheur, entre un rôle de bénévole que j'avais, mais en tant que citoyenne, je dirais plus à la CIMAD, et ce terrain où l'expertise médicale, donc je m'intéressais moi au départ... plus aux soins, hein. Mais quand j'allais dans un terrain qui m'avait été ouvert, qui est une association qui s'appelle le Comed, la question de l'expertise médicale ressurgissait constamment et elle croisait des multiples interrogations que j'avais moi en tant que militante bénévole dans mon accompagnement juridique hebdomadaire avec des demandeurs d'asile. Donc, du coup, c'est pour ça qu'après, je me suis dit, bon, finalement, à un moment donné, il faut se repositionner. Et j'ai décidé de m'intéresser au système de l'asile et à ses usages sociaux du droit d'asile contemporain. Donc, pour cela, un premier axe de questionnement, ça a été de me demander qu'est-ce que c'était que ce rôle. Alors, les Anglais appellent médiateur culturel, cultural broker, joué par les associations. Dans ce domaine-là, qu'est-ce qui faisait que cette médiation était toujours plus importante ? Donc, je voulais expliquer ça, et je voulais expliquer comment ça se jouait au quotidien. Je voulais expliquer aussi donc, un phénomène qui est lié, à savoir qu'il y a une interdépendance accrue, du coup, entre demandeurs d'asile et acteurs associatifs. Donc ça, c'était un premier projet de ce travail avec deux questionnements qui structurent fortement le livre, à savoir quelles pratiques de justice locale les associations mettent en place, puisqu'on est dans un système où il y a une diversité d'associations qui peuvent accueillir ces publics, qui sont dans des situations de dépendance plus ou moins importantes à l'égard de leurs financeurs, qui ont un projet à l'origine de leur association qui peut être très différent. Alors, de fait, est-ce que du coup, on n'a pas dans chacune de ces institutions des manières d'accueillir ou de ne pas accueillir hein, les demandeurs d'asile qui sont relativement différentes? Est-ce que tout le monde a les mêmes critères, pour le dire simple, ou justement, est-ce qu'on n'a pas une variété de critères dont les demandeurs d'asile doivent faire l'apprentissage aussi, puisque, a priori, quand ils s'adressent à une association, ils ne connaissent pas forcément le protocole d'accueil de cette association. Donc comment se joue cette justice? Comment les acteurs justifient l'ordre d'entrée et le traitement hein, qu'ils peuvent faire aux demandeurs d'asile, des demandeurs d'asile? Donc ça, c'était un premier pan. Et puis, dans l'activité quotidienne d'aide au dossier ou d'expertise médicale, comment on justifie la requête d'asile, le dossier d'asile? Quels sont les registres de justification qui sont promus pour essayer de défendre le droit d'asile devant les institutions en charge d'évaluer la demande? Donc, si je ne suis pas claire, n'hésitez pas après à me poser des questions. Le deuxième point qui va hein, dans la suite de ce que je viens de dire sur les registres de justification, c'est la question des expertises mobilisées par ces acteurs associatifs. L'idée, c'était, comme je vous l'ai dit, dans la mesure où l'activisme juridique avait été déjà exploré, hein, c'était de se demander, pour ce domaine qui est particulier quand même, qui est le droit d'asile, quelle forme d'expertise produisent ces associations? Parce qu'il n'y a pas que du droit là-dedans. Quand on produit un dossier de demande d'asile, on produit aussi un récit, sur des trajectoires de personnes hein, qui vous racontent leur vie, les difficultés qu'elles ont eues dans leur pays, leur parcours migratoire. Et donc, qu'est-ce que c'est? C'est pas juste invoquer la Convention de Genève ou mobiliser une jurisprudence qu'on connaît bien. Il y a aussi tout un savoir géopolitique, de mise en forme du récit. Donc c'était d'essayer de mieux comprendre qu'est-ce que c'était que cette expertise-là, qu'est-ce que c'était que ce travail quotidien fait par les acteurs associatifs qui rend cette expertise si importante pour les demandeurs d'asile. Et sur le versant de l'expertise médicale, qu'est-ce que c'était que cette expertise médicale, médico-légale, hein, produite dans le cadre des procédures d'asile, sachant qu'il faut avoir en tête que l'image d'un expert neutre qui mobiliserait un savoir médical neutre, c'est une image qu'il convient de déconstruire. Il y a un certain nombre de travaux qui montrent combien l'expertise médico-légale est toujours le fruit d'un contexte et qu'on peut avoir un regard sociologique sur celle-ci. Et troisième point, je vous ai dit tout à l'heure que les politiques d'asile contemporaines, elles sont marquées par un volet qui est la promotion de l'accès aux droits. Hein. Il y a un certain nombre de droits sociaux qui sont inscrits dans les textes, il y a des politiques d'assistance, des dispositifs qui sont financés par l'État pour assister les personnes, pour les soigner. Donc on a ce volet-là, et puis on a un volet plus de sélection, de contrôle, qui est aussi financé par ce même État, la main droite et la main gauche de l'État, comme dirait Pierre Bourdieu. Donc l'idée, c'était que les acteurs associatifs à qui sont déléguées les missions de service public se retrouvent à la croisée d'enjeux qui peuvent constituer dans leur quotidien ce qu'on appelle, ce que Bourdieu aussi appelle les injonctions paradoxales, mais qui a été théorisé aussi par en psychologie, Donc comment ces acteurs vivent ces injonctions paradoxales ? Est-ce qu'ils s'en arrangent de la même façon, selon les institutions ? Et donc, quel éthos ces acteurs associatifs peuvent-ils avoir dans ce système de l'asile ? Dans les temps. Donc ce sont les trois questionnements qui façonnent un peu l'ouvrage, si on essaye donc de tirer des fils, sachant qu'à chaque fois, il y a un certain nombre de questions qui sont soulevées par ces trois mêmes questions. Alors, comme je vous l'ai dit, dans un troisième temps, l'idée, c'était de rentrer plus dans la cuisine du chercheur et de se dire, bon, avec ces questions-là, finalement, sur le terrain... alors, bien sûr, faut savoir que c'est un peu artificiel, parce que ces questions, elles se construisent dans un aller-retour aussi avec les observations qu'on fait sur le terrain. Mais comment j'ai procédé pour enquêter sur le volet expertise médicale dans la procédure d'asile ? Alors... Première chose que je dois dire, il y a un effet d'opportunité, c'est-à-dire que quand on entame une recherche, il y a là où on en est nous, les savoirs qu'on a, les compétences, les contacts qu'on a. Donc ça, c'est une première chose, mais il y a aussi les institutions qu'on contacte, là où elles en sont, les problèmes de financement qu'elles peuvent avoir, le degré d'ouverture qu'elles ont aux chercheurs qui est plus ou moins important, la peur qu'elles peuvent avoir aussi sur les effets de réputation d'une institution. Donc tout ça joue fortement. Et il se trouve que j'ai eu la chance d'avoir une structure d'accueil, qui est donc le COMET, qui a été très accueillante parce qu'elle a une tradition d'accueil de stagiaires en santé publique, déjà depuis très très longtemps, qui fait que je pense que ça explique aussi une forme d'ouverture. C'est ce qui peut apparaître compliqué à d'autres institutions, observer des consultations médicales, ça leur apparaissait moins compliqué parce qu'ils ont régulièrement des stagiaires en santé publique à côté de leurs médecins qu'ils forment. Et de ce fait-là, ça ne leur apparaissait pas incongru ou trop perturbant pour l'organisation du travail de m'accueillir. Et c'est aussi à partir de ce terrain-là que d'autres ensuite ont pu s'ouvrir, parce que aussi, à partir du moment où on commence à être dans le dialogue avec des personnes, ben on en rencontre d'autres et elles sont rassurées qu'on soit accueillis déjà dans un lieu, donc ça peut jouer fortement et les choses se font très progressivement, surtout que c'était une thèse en 8 ans, donc elles ont eu le temps de se faire très progressivement. Donc ça, c'était le premier point, parce qu'il m'apparaît vraiment, vraiment important. Après, si on essaye de regarder comment j'ai essayé de cerner cette question des usages du certificat médical dans la procédure d'asile contemporaine, je l'ai fait de manière assez différente. Donc d'abord, il y avait l'idée d'essayer d'appréhender le recours par les demandeurs d'asile à l'expertise. Alors très vite, il est apparu que faire des entretiens avec, par exemple, les patients du COMED, par exemple, le médecin proposant à un patient s'il voulait bien faire un entretien avec un sociologue qui faisait sa thèse, ça s'avérait pas tellement facile à manipuler parce que, enfin le matériau, parce que les personnes me connaissaient pas, donc j'avais toujours une même forme de discours, des entretiens très courts. Enfin, on sent vite les limites dans ces cas-là de l'entretien et on se dit qu'on ne procède pas de la bonne façon. Donc le parti pris que j'ai eu finalement, ça a été de suivre un très petit nombre de demandeurs d'asile, de personnes en procédure, puis après qui ont eu des parcours très différenciés, et d'avoir des entretiens réguliers avec eux pendant ces 5 années où une relation se nouait, et de regarder dans leur parcours quelles étaient leurs ressources par rapport au droit, est-ce qu'ils avaient ou non mobilisé l'expertise médicale et comment ça s'était joué pour ce petit nombre de personnes. Et ça a été le parti pris. Ensuite, comme j'étais à l'époque à la CIMAD, j'ai pu faire de l'observation participante aussi et appréhender la manière dont, dans ma permanence, un certain nombre de personnes mobilisaient ou non l'expertise médicale, à quel moment, pourquoi elles le faisaient, pourquoi elles ne le faisaient pas, etc. Donc ça, puis dans les entretiens avec d'autres structures, j'ai essayé de poser un certain nombre de questions sur ces aspects-là aussi. Ensuite, il y a eu quelque chose de beaucoup plus difficile, c'était de voir du côté des institutions comment on recevait ces certificats médicaux. C'est-à-dire pas comment des personnes mobilisaient ces certificats médicaux, mais finalement, quelle était la réception de ces certificats que les personnes ou leurs défenseurs pouvaient produire. Donc là, c'est pareil, il y a un certain nombre de limites. J'ai pu faire qu'un très petit nombre d'entretiens auprès d'agents de l'OFPRA et de la Cour nationale du droit d'asile, puisque à l'époque, on m'a dit, bon, ben oui, vous pouvez interroger allez, 3 personnes. Donc, alors, bon, je m'en suis contentée quand même en me disant que ça m'offrirait quand même un éclairage partiel plutôt que pas d'éclairage du tout. Et donc, après, avec en demandant à la personne qu'on interroge, on arrive à avoir un petit peu plus d'entretien. Mais globalement, l'effet boule de neige avait ses limites, puisque un certain nombre de personnes étaient plutôt inquiets à l'époque de savoir comment leur hiérarchie réagirait si elle faisait cet entretien. Et donc, j'ai eu qu'un petit nombre d'entretiens, mais des entretiens suffisamment éclairants quand même, non pas pour faire une sociologie du jugement au sein de ces institutions, mais pouvoir voir comment déjà il y avait une hétérogénéité des manières de recevoir ces certificats médicaux. Donc, même en faisant, je dirais, ce qui pouvait constituer plutôt une enquête exploratoire ou un terrain exploratoire, ça disait déjà un certain nombre de choses, de à la fois l'opacité de ces procédures, de la pluralité des modes de réception d'un même objet certificat. Autre élément, je vous ai dit que ce qui m'intéressait, c'était de rentrer dans l'univers moral des acteurs associatifs et d'essayer de moral et politique, hein, j'associe les deux, et d'essayer de comprendre quel pouvait être leur dilemme face à ce rôle de soignant expert qu'il leur est confié. Donc un certain nombre de médecins avaient déjà commencé à écrire là-dessus, à publier des tribunes, donc, ce qui était en soi un matériau à analyser, de recueillir ces articles, de regarder quels étaient les médecins qui avaient publié ces tribunes. Ils venaient en général tous des deux mêmes associations, donc ça veut dire qu'il y avait d'autres associations aussi qui ne produisaient pas de telles tribunes, donc il y avait comme ça un matériau à interroger, et d'essayer d'aller un petit peu plus loin pour mieux comprendre bon, ben, c'était quoi les termes de ce dilemme pour ceux qui trouvaient que assumer ce rôle de soignant et d'expert était difficile, et puis de voir si dans les archives de l'association cette manière de faire de l'expertise médicale avait été à tout moment estimée aussi problématique. Donc d'avoir à la fois un regard sur la différence qu'il pouvait y avoir entre les soignants experts en fonction des institutions, mais de regarder aussi avec un recul historique pour une association qui se posait la question de l'expertise médicale comme un dilemme, pratique, éthique et politique, si ça avait été toujours le cas. Donc pour ça, il m'a semblé intéressant, donc je vous l'ai déjà dit, d'aborder la question d'aller du côté de l'archive des archives de l'association qui m'avait ouvert ses portes, qui sont toujours lacunaires, mais on retrouve quand même un certain nombre de comptes rendus de débats, d'aller faire des entretiens avec aussi des personnes qui étaient là depuis longtemps dans cette association, de faire des entretiens avec l'ensemble des personnes d'associations différentes qui font de l'expertise et du soin aujourd'hui, d'observer des consultations pour mieux comprendre à quelle réalité renvoyer ce qu'ils pouvaient me dire en entretien, et d'observer ce qui était un peu... plus au départ, je pensais pas, mais progressivement, en fait, y a eu un certain nombre de séminaires qui se sont organisés autour de ces questions d'expertise médicale. Enfin, il y avait, par exemple, des séminaires professionnels où des psys venaient parler, donc ils présentaient des études de cas. Mais du coup, c'était un bon moyen aussi de voir des positionnements se dessiner lors de ces réunions et puis surtout lors des débats après, puisque à ce moment-là, on voyait ceux qui n'étaient pas d'accord. Il y avait tout un tas de débats où les arguments des uns et des autres se dessinaient au cours de ces réunions. Puis c'était une bonne entrée aussi pour après demander des entretiens. Et enfin, je crois, une idée aussi qui nous... Là, c'est un élément de la recherche où j'ai été beaucoup aidée par Didier Fassin dans la conception. C'était l'idée de voir comment l'objet certificat en lui-même avait évolué dans le temps. Donc, du coup, j'ai tiré au hasard un certain nombre de certificats dans un corpus, puisqu'ils avaient gardé les archives de ces certificats au COMED de cette association sur 20 ans. Et ensuite, il s'est agi de coder, ce qui n'est pas la partie la plus évidente, mais de coder ces certificats, donc de voir des choses très simples, hein, je donnerai juste trois exemples. Par exemple, la structure du certificat, est-ce qu'elle avait évolué? Mais alors du coup, le nombre de lignes dévolues à l'histoire du demandeur, le nombre de lignes dévolues à la description clinique, ça pouvait être des choses comme ça, de forme. Donc là, on voit... un certain nombre d'évolutions hein, autour de la forme. Deuxième chose, d'essayer de coder le contenu, de voir, par exemple, prenons l'exemple des aspects psychologiques, les termes employés. Donc, par exemple, le terme psychotraumatisme apparaît qu'à partir des années 90. Donc, enfin, pour vous donner des petits exemples de la manière dont il a fallu établir la base de données. Donc tout ça aussi a permis d'appréhender mieux comment on écrit les certificats et aussi la place de l'hétérogénéité des pratiques à telle ou telle époque de l'histoire. Et puis, dernier point, je suis allée faire un petit tour parce que j'avais l'opportunité aussi dans un laboratoire de recherche au Canada et dans un laboratoire de recherche au Royaume-Uni, où là, il ne s'agissait pas de faire du comparatisme strict, mais de faire des entretiens avec des acteurs associatifs qui étaient dans la même position, donc de faire du soin et parfois de l'expertise auprès des demandeurs d'asile au Canada et au Royaume-Uni. Parce que, du coup, les spécificités françaises ressortaient mieux. C'est-à-dire que, par exemple, pourquoi c'est si compliqué pour les experts soignants de faire de l'expertise médicale en France, parce que par exemple, à la différence du Canada, c'est pas une procédure commandée par un tribunal où vous êtes uniquement expert et pas soignant. Donc ça a jamais, c'est quelque chose qui serait possible dans les textes, mais qui n'est pas qui n'est absolument pas mobilisé par la Cour nationale du droit d'asile pour des raisons de coût hein, essentiellement. Mais du coup, le discours des personnes au Canada qui étaient dans ce rôle unique d'expert était très différent de celles qui, au Canada aussi, pouvaient être dans un rôle d'expert et soignant, parce que là-bas aussi, des fois, le demandeur d'asile peut demander à son soignant de quand même verser une pièce au dossier, indépendamment de la procédure d'expertise formelle. Donc pour conclure, et qu'on ait le temps d'échanger et de préciser tout un tas de choses que j'aurais pu dire qui ne seraient pas suffisamment précises, donc juste, voilà, je me suis dit en même temps, si je pose que les questions et si je dis uniquement ce que j'ai pu faire, ça va être un petit peu frustrant de ne pas avoir du tout de conclusion. Donc juste dans cette conclusion, dire quelques éléments qui me sont apparus importants autour de cette question de l'expertise médicale en France et qui ressort du coup du matériau d'enquête. Premièrement, je ne vais pas aborder tous les aspects, j'en ai choisi, c'est toujours un peu arbitraire, 3-4. Premièrement, il y a un usage pluriel du certificat dans la procédure, je vous l'ai dit tout à l'heure, avec les quelques entretiens effectués auprès d'agents de l'OFPRA ou de la Cour nationale du droit d'asile. Il apparaît déjà des positionnements relativement différenciés. Pour les uns, le certificat médical va être un indice. Pour les autres, ça va être la reine des preuves, pour reprendre leur formulation. Pour les uns, les séquelles physiques ont plus de poids que le traumatisme qui peut être attesté par les psychologues ou psychiatres. Pour les autres, c'est l'inverse. Donc, je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails ici, mais c'était déjà un élément sur cette pluralité, hein, des jugements assis sur cet examen des certificats médicaux à côté de celui du dossier de demande d'asile qui reste quand même un élément fondamental hein, dans la demande d'asile. Deuxième élément, être expert et soignant. Donc là, il s'agissait de cerner, je vous ai dit, les enjeux politiques, éthiques et thérapeutiques de la certification médicale. Pour les enjeux politiques, hein, qui sont un élément important, c'est précisément que... Alors, première chose, c'est que ces enjeux politiques ne sont soulevés dans les réunions où il y a des acteurs associatifs investis dans ce champ, des soignants, qu'en France presque. C'est-à-dire quand on regarde les tables rondes à l'échelle européenne ou quand on assiste à des réunions de réseaux européens, d'associations qui prennent en soin les exilés, c'est les Français qui soulèvent l'enjeu politique. Les autres acteurs étaient beaucoup plus dans une quête de reconnaissance, c'est-à-dire à demander « mais nos certificats ne sont pas reconnus par les institutions, ils devraient l'être, l'autonomie du monde médical, son expertise devrait être mieux reconnue ». Et les Français, eux, pointaient l'argument, participer à ce système, c'est quelque part, à un moment donné, affaiblir la Convention de Genève, qui insiste sur le fait que pour être reconnu réfugié, on peut être menacé de persécution. Il n'est pas nécessaire d'avoir été persécuté. La Convention de Genève protège des personnes menacées de persécution. Pas uniquement des personnes persécutées. Et avec cette course à la preuve, finalement, on renforce l'idée que seules les personnes persécutées qui pourraient attester de ces séquelles mériteraient une protection. Donc ça, c'est un premier élément. Autour des enjeux thérapeutiques, comme je vois que l'heure tourne et que je voudrais qu'on ait le temps de discuter, autour des enjeux thérapeutiques, un élément important qui apparaît, c'est qu'au fur et à mesure de l'accélération des procédures, au fur et à mesure de l'augmentation au sein de ces associations de la demande, au fur et à mesure aussi de la standardisation des protocoles d'expertise, il est devenu de plus en plus difficile pour les soignants d'assumer ce double rôle. Ils pouvaient être valorisés il y a 20 ans comme participants d'une politique du témoignage. Aujourd'hui, quand on fait des entretiens, on ne retrouve plus du tout ce discours-là de la part des acteurs associatifs. Au contraire, on trouve un discours où sont soulignés les effets retraumatisants de l'expertise médicale pour les demandeurs d'asile dans un contexte où la procédure s'accélère et où il y a très peu de temps en termes de... parce que ces associations ont beaucoup de demandes et pour du soin et pour de l'expertise médicale pour pratiquer cette expertise. Donc ça, c'était un autre élément qui apparaissait. Bon, après, il y aurait bien d'autres aspects, mais... Et justement, par rapport à ces dilemmes, je vous disais tout à l'heure, bon, quand on est dans une institution, on a tendance au départ à se dire que voilà, le positionnement de l'association, c'est le positionnement sans doute général, où on peut avoir ces effets hein, liés à sa position de bien intégrée dans un milieu associatif. Mais précisément, il y a des lignes de partage très différentes au sein de ce monde associatif sur cette question de l'expertise. Qu'on peut lire avec les termes de Hirschman hein, en termes de loyauté, de défection, de prise de parole hein, en sociologie des mouvements sociaux. D'abord, il y a une loyauté. Hein, c'est-à-dire, on pourrait dire qu'il y a des experts soignants au service du système de l'asile qui assurent ce rôle. Alors, sans toujours avoir du coup de questionnement autour de ce rôle, ils font l'expertise, ils produisent le certificat et puis adviennent ce qu'il adviendra. Donc il y avait des experts soignants dans certaines associations qui avaient cette position-là. Dans d'autres associations, il y avait la tentative de défection, ou la tentation, j'aurais dû dire. C'est les deux, c'est à la croisée des deux. Donc on organise des réunions pour parler de la grève du certificat ou de l'arrêt de toute forme de certification. Mais ce qu'il est apparu, c'est qu'au fur et à mesure de la recherche, ça restait une tentative et une tentation parce que prime toujours l'idée qu'on pourrait, en abandonnant cette activité d'expertise, causer du tort à un des patients qu'on suit. Et de ce fait-là, les soignants n'arrivaient pas à tenir cette position. C'est-à-dire que le patient qu'ils suivent, ils se disaient, bon, bah, en même temps, si jamais avec ce certificat, ça peut lui donner une chance de plus, bon, je continue en dépit de ces arguments hein, qui sont versés au débat collectif que je vous ai cité tout à l'heure. Et puis il y avait aussi le risque que si les associations arrêtaient cette activité médicale, ce soit peut-être des experts moins scrupuleux qui prennent la place, donc toujours cette peur hein, que même ça devienne un marché de l'expertise dont les demandeurs d'asile deviendraient des clients qui seraient malmenés. De ce fait-là, bien souvent, cela contribuait à ce que les acteurs poursuivent, restent intégrés à ce système de l'asile, de la procédure d'asile, mais en prenant parole, en dénonçant, en essayant de nouer des contacts vis-à-vis des institutions que sont l'OFPRA et la Cour nationale du droit d'asile pour les mettre en garde sur ces usages pervers de l'expertise. Enfin, sur un dernier point, et je conclurai là-dessus, comment décrire les effets de la violence quand au quotidien on reçoit des patients qui ont pu faire l'expérience de menaces, de violences, de parcours compliqués, hein, dont on sait que l'allongement et le contrôle des politiques migratoires les rendent plus complexes encore. Hein, on a les travaux d'Anaïque qui est ici, qui montrent bien cela, et d'Olivier Clochard qui est aussi ici, donc je les remercie. Et de ce fait-là, comment décrire les effets de la violence ? Le paradoxe, quand on examine ces certificats, c'est que précisément, on a eu une forme de normalisation et de standardisation du certificat qui fait de moins en moins apparaître les expériences singulières par rapport à il y a 20-25 ans, puisqu'on a de moins en moins de temps pour les faire, d'une certaine manière, mais aussi parce que progressivement, l'idée qu'un certificat neutre où les affects et du soignant et du soigné reçu par le soignant seraient transmis tels qu'on les découvre au cours de la consultation pourrait être finalement plus nuisible parce que ressemblerait moins à cette figure de l'expert neutre et impartial qui est supposé être valorisé au sein des institutions. Du coup, on a des certificats qui se ressemblent de plus en plus au sein de ces institutions, alors qu'avant, on pouvait voir la patte des médecins dans ces certificats. On pouvait très aisément reconnaître d'un certificat à l'autre qui l'avait écrit. Aujourd'hui, ce n'est plus tout à fait le cas. Les certificats sont plus courts, se ressemblent les uns aux autres. Et de ce fait-là, les expériences des sujets sont beaucoup moins visibles à travers ce support hein, là qui participe de la défense de la requête des personnes auprès des institutions en charge d'attribuer le statut de réfugié. Donc je vais conclure et m'arrêter ici pour laisser ouverte la discussion. Je vous remercie de votre attention.
Écoute, merci beaucoup. En deux mots, parce que l'idée, ce n'est pas forcément de faire une grande synthèse, mais je voulais dire plusieurs choses. La première, c'est que la lecture de ton ouvrage, quand je l'avais fait il y a quelques mois maintenant, j'avais été assez frappé par la facilité avec laquelle je trouvais que tu jonglais, finalement, en le sachant ou pas, qu'importe, entre les matières. C'est-à-dire qu'on voit très bien la facilité avec laquelle tu es parti dans une perspective d'analyse sur un temps moyen, qu'importe, un temps historique, pour nourrir la sociologie, qui elle-même nourrit l'histoire, qui elle-même nourrit toutes les SHS. Et je trouve que ce travail-là, en tout cas de mon point de vue, est un rare travail qui permet de clairement mettre au jour, au-delà des déclarations de principe, ce que c'est que cette fameuse pluridisciplinarité dont on se réclame tous et dont on a tous beaucoup de mal à la mettre en place. Et donc là, pour le coup, moi, c'est quelque chose qui m'avait vraiment plu parce qu'on voyait très clairement que les choses ne sont pas séparées arbitrairement dans ce travail-là et que quand il faut s'attaquer à l'histoire d'un formulaire, l'histoire des formulations, etc., bah tu es parti dans l'attaque et je trouvais que l'immense valeur de cet ouvrage était là. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui est pour moi très fascinant de voir que les frontières sont tellement simples entre nos matières à dépasser et si peu mises en place. Donc je voulais vraiment le ressouligner parce que j'y repense forcément en t'ayant entendu. Ça, je trouve que c'est vraiment pour moi quelque chose qui doit être souligné et peut-être répété à l'envi auprès des étudiants qui sont là et des non-étudiants d'ailleurs. Donc, si les matières, les frontières entre les matières sont tenues, si tu as fait de multiples enquêtes qui sont quali, qui sont le rôle de la comparaison, le rôle des croisements, des choses, je trouve qu'effectivement, quand on est amené à enseigner les méthodologies, on voit très clairement que, bah, effectivement, les méthodologies, elles se lisent, elles se décomposent dans les ouvrages et surtout, elles se dépassent. Et je pense bien que c'est dans ton travail de thèse que tu as appris à faire ça et pas forcément très clairement avant. Et ça aussi, je trouve que c'est vraiment extraordinaire dans ce travail. Les questions que je voudrais soulever avec toi tout de suite sont rapides et puis après, je laisserai la parole aux étudiants. La première, c'est finalement, dans cet ensemble-là, qu'est-ce que tu fais du traitement de l'émotion ? Je ne parle pas de la violence, mais de cette difficulté de rendre compte de l'émotion, parce que l'émotion est forcément variable dans le temps, elle est variable entre qui la reçoit, qui la construit et comment on la rend compte. Et est-ce que tu vois une évolution, justement, de ce traitement émotionnel ? Non pas comment il est reçu, mais comment... En fonction des formations médicales, j'imagine qu'on est au cœur aussi des pratiques de santé publique dans ce que tu décris. On n'est pas forcément dans une médecine qui prescrit. Est-ce que tu vois une évolution de ces gestions de l'émotion, des silences, etc. Ça, c'est la première question. Et puis aussi, on est... Pour la soutenir, on est dans quelque chose aussi où une parole médicale est souvent un peu mandarinale, hein, même si les toubibs ne sont pas mandarins forcément dans ces associations-là. Mais il y a l'habitude d'une autorité médicale. Et donc, pour le coup, est-ce que tu la vois évoluer, cette autorité médicale, dans la façon de justification, notamment, ou des choses comme ça ? Et du coup, ça m'amène à ma deuxième question. Est-ce que tu as fait des biographies médicales pour étudier peut-être l'épuisement des acteurs ? Est-ce que tu le vois apparaître dans le temps long, justement, cet épuisement qui fait que y a de l'usure dans la pratique des métiers, il y a de l'usure dans la pratique de l'enseignement, mais il y en a probablement aussi dans la pratique de la certification médicale et aussi dans la pratique militante. Et donc, comment est gérée cette usure-là ? Est-ce que tu arrives à le voir apparaître dans cette perspective de temps long, par exemple ? Parce que d'abord, on a le droit de changer de métier et puis on a le droit d'en avoir marre. Donc, je ne parle pas de moi. Donc, est-ce que tu le vois très clairement apparaître aussi dans cette perspective d'une vingtaine d'années ? Ça, c'est vraiment des choses qui me fascinent notamment et ça se voit, me semble-t-il, probablement dans l'étude du formulaire, mais... Voilà, je te remercie. Et comment tu veux procéder ? Je prends d'autres questions, tu veux répondre au fur et à mesure ?
Oui, maintenant, c'est
frais. À ta convenance.
Alors, sur le traitement de l'émotion, alors c'est amusant parce que c'est... Enfin, amusant, sur un sujet comme ça, c'est jamais très amusant, mais c'est amusant, cette question du traitement de l'émotion, parce que, en fait, les deux questions que tu m'as posées aujourd'hui, ça fait partie des deux questions... Ou quand on est à la fin de la thèse, on regarde ce qu'on a fait qu'à moitié ou pas assez fait, et on se dit on aimerait bien mieux arriver à comprendre ces mécanismes-là. Et ça fait partie des deux questions, enfin sur lesquelles j'aimerais mieux.
C'est à ça qu'on voit les bons boulots de thèse, moi je crois. C'est comme ça qu'on les voit. C'est les questions que ça ouvre après.
Et du coup, sur la première, j'ai des éléments de réponse. C'est-à-dire que c'est le matériau qui fournit les éléments de réponse. C'est-à-dire que quand la difficulté, c'est que dans le temps, je n'étais pas là pour assister aux consultations. Je n'ai accès qu'aux archives. Mais ces archives parlent des émotions. Dans ces archives, on lit, dans les certificats médicaux, hein, et dans aussi des réunions de staff, des comptes rendus de réunions de staff, on lit la difficulté de mener ces expertises, que les soignants en sortent bouleversés, qu'elles durent des heures à l'époque en plus, contrairement à aujourd'hui. Et donc ça, on le lit dans les réunions de staff, que parfois ils ont déjà un peu le sentiment d'être dans une position qu'ils appellent à l'époque de policier. Mais pas de bourreau, alors qu'à l'époque où je fais les entretiens, on utilise la figure du bourreau. Enfin, il y a comme un degré, un déplacement qui s'est fait aussi. Donc on lit ça dans les réunions de staff et on le lit dans les certificats. C'est-à-dire que dans les certificats, j'ai senti que un tel, on a tout un champ lexical où il y a la propre émotion du médecin qui est signalée. Et même des glissements, du coup, par rapport aux normes de l'expertise, hein, où on n'est censé pas s'impliquer, des glissements des médecins sur « j'ai l'intime conviction du vécu de souffrance de ce patient hein, », des choses comme ça. Et donc l'émotion, elle est présente. Et la seule manière... est-ce qu'elle est absente maintenant des certificats? On n'a plus l'émotion du soignant. Néanmoins... Du coup, l'observation est complémentaire parce qu'après, on a les pauses café après l'expertise. Et c'est là où, finalement, on a l'émotion du soignant par rapport à l'épisode qui s'est joué. Il y a une forme de retenue hein, dont elle était peut-être déjà présente il y a 20 ans. Ça, je ne peux pas le dire. Je n'étais pas dans les consultations. Mais voilà, c'est au pause café qu'on va avoir le ressenti du soignant, la difficulté à entendre... l'histoire qui vient d'être évoquée, à se positionner. De ce fait-là, l'émotion est présente, je pense, dans le temps. Hein. Ce qui a changé, c'est que, justement, elle est invisibilisée dans les certificats produits devant les institutions. Et sans doute, hein, dans le travail social, il y a aussi, hein, on voit que... Parce que comme il y avait un versant qui était sur l'expertise médicale et un autre qui était plus sur comment on construit l'aide au récit, sur l'aide au récit, donc le dossier de demande d'asile. Je sais que les personnes qui avaient une formation en travail social étaient beaucoup dans un discours, on doit maintenir une certaine distance. Vous le voyez peut-être, hein, si vous avez vu Les Arrivants, le documentaire, on voit un peu les figures du travail social relativement différentes, la question de la distance à maintenir avec le public, enfin tout ça.
Le croquet-sborg de l'après-guerre. Mmh.
Et donc ça, je pense qu'il y a un effet, hein, sans doute, de censure, du coup, face à la personne de cette émotion. Mais souvent, on la voit surgir à la bande dès que la porte est refermée, enfin, que ce soit de la colère. Enfin, il y a une scène assez magistrale dans Les Arrivants. Donc c'est un documentaire sur la coordination d'accueil pour les familles demandeurs d'asile à Paris. Hein, où c'est une plateforme d'accueil, donc il reçoit beaucoup, beaucoup de demandeurs d'asile. Et donc il y a une scène où elle reçoit il y a une jeune travailleuse sociale qui reçoit une femme, et cette femme a une demande qui est en décalage avec le protocole standardisé de la CAFDA, où à telle session on doit aborder tel accès aux droits, et la dame a une demande par rapport à son hébergement. Et donc, elle n'entend pas. Et puis, on voit la colère commencer à monter. Enfin, c'est assez évocateur, tout avec en même temps, elle essaye de se contenir. Et puis après, quand la porte est fermée, là, il y a une grande discussion, parce que le traducteur a perçu la scène complètement autrement. Lui a vu la légitimité de la demande de cette femme enceinte qui doit descendre tous les les escaliers de son logement social, pas à pas. Enfin, c'est... Je trouve sur cette gestion des émotions, ça nous dit des choses à la fois de la manière dont sans doute aujourd'hui les normes du travail social font qu'on le contient, mais un certain nombre d'autres choses aussi que j'explique pas. Il faudrait une enquête pour mieux comprendre ces questions-là. Il y a des travaux, je pense, qui sont utiles déjà sur le monde médical, sur la gestion des émotions. Mais c'est vrai que je les connais moins. Et sur les biographies, alors il y a un turnover important hein, dans les associations.
Même en termes de gens.
Soignantes.
Même en termes de gens, soignants. J'imagine que c'est souvent des femmes, puis après des hommes ou pas, ou c'est une connerie?
Non. Enfin, c'était mixte là où j'ai observé. Alors, en tout cas, dans le temps où je l'ai observé. Mais par exemple, si je prends la structure que je connais le mieux, hein, il y avait un turnover important au moment où j'y étais. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était le turnover, on pouvait l'expliquer quand je demandais aux gens un peu leur projet aussi, par rapport à leur pratique professionnelle, et puis leur perspective au sein de cette association. Il y en avait certains qui me disaient, moi, j'en ai la certification, j'en peux plus. Et puis c'est un public avec lequel on ne peut pas rester trop longtemps, c'est trop dur, donc je vais repartir un peu dans le libéral. Donc il y avait des personnes qui... Voilà, et puis le turnover était chiffré, on pouvait l'observer, les gens ne restaient pas forcément plus d'un an ou deux dans la structure. Et en même temps, moi, ce qui m'intéressait, c'est que, bon, il y a un épuisement, mais il y a ceux qui tiennent, Enfin, je trouve que c'est parce qu'en même temps, dans ces associations, il y a des figures qui sont là depuis 15, 20 ans, qui tiennent face à. Donc, c'est autour de. Enfin, je pense qu'il y a effectivement. C'est ce qui me manquait, c'était cette profondeur dans les biographies, parce que j'avais les justifications pour lesquelles les gens étaient là, quelques éléments de leur biographie, mais je ne me suis pas attaquée en tant que telle à cette question-là. Et pour ça, il faudrait, je pense, des entretiens biographiques relativement longs avec les personnes qui sont impliquées, avec celles qui restent autant qu'avec celles qui partent, pour mieux comprendre à quoi cette présence ou ce départ est lié. Quels sont les facteurs qui peuvent l'éclairer.
Okay. Merci. Je fais passer.
Si tu veux.
À vous de jouer.
Bonjour.
Bonjour.
Moi, j'aurais une question encore au niveau du positionnement de l'expert soignant. Je voudrais savoir comment, dans vos entretiens, ou comment eux, ils appréhendent la question du soupçon, du doute, et la certaine culture de la méfiance face au récit qui leur est conté.
Il appréhende de manière différenciée. Hein. Il n'y a pas une réponse unique. C'est-à-dire que selon moi, c'était surtout des médecins généralistes que j'ai interrogé et suivi en consultation. Il y en a chez qui c'est très présent cette culture de la méfiance. Il y en a chez qui c'est présent, puis il y en a d'autres chez qui c'est moins présent. Déjà, c'est un premier constat. Hein. Ensuite, il y a comment par rapport au doute on se positionne quand il surgit. Et il y en a pour qui c'est pas leur questionnement. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas s'arrêter. Bon, ben voilà, la personne dit, j'écris. Moi, je regarde juste si, entre ce qui est invoqué et ce que je constate cliniquement, il y a une compatibilité. Je ne vais pas commencer à aller chercher si la personne me produit un... Même si je peux avoir des doutes qui émergent, parce que, voilà, parfois, on connaît bien l'histoire d'un pays, et puis, ça pourrait être quelque chose qui n'est pas en concordance avec l'histoire du pays, mais on sait combien... Enfin, ces soignants savent aussi souvent combien il y a des tas de facteurs qui peuvent expliquer la non-concordance entre cette histoire personnelle et puis cette histoire collective connue. Donc ils ont aussi beaucoup de méfiance par rapport à les propres signes hein, qui pourraient faire surgir ce doute. Donc voilà, il y a un peu des positionnements différenciés, puis d'autres pour qui peut-être le certificat sera un peu moins en demi-ton, en demi-teinte, je ne sais pas comment dire, où il y aura... Parce qu'en fait, quand on observe les certificats, il y a des manières de s'engager quand même. C'est-à-dire qu'on peut mettre très, très compatible. Ouais, enfin, il y avait des nuances dans la manière de dire les choses qui pouvaient faire apparaître des fois une adhésion très forte ou un soutien très fort aux patients par des petits mots... où on sent oui. Donc du coup c'est peut-être comme ça que parfois ça peut ressurgir et puis mais c'était assez rare parmi dans le corpus que j'ai interrogé hein, des personnes qui étaient dans une position de méfiance ou de défiance franchement c'était pas la majorité des experts soignants que j'ai pu rencontrer. Il y a un poids de l'institution aussi dans ça. C'est-à-dire qu'il y a certaines associations où il y a un discours collectif de l'institution, et je pense que c'est très important d'y faire attention. Il y a un discours collectif de l'institution qui est le produit d'une histoire hein, aussi, c'est-à-dire qu'il y a eu des réunions de staff pendant 15 ans où on a quand même dessiné des positions qui, du coup, sur les nouvelles arrivants, vont peser parce qu'on va les voilà ils vont assister à ces réunions de staff où ils ont cette historique des positions où on leur dit que voilà quand bien même ils ont des doutes c'est pas forcément leur affaire d'avoir à se prononcer là-dessus que eux doivent regarder ce qui une histoire invoquée une compatibilité des signes observés vous voyez et donc ils arrivent dans ce contexte institutionnel là et il y avait des associations dont une a disparu hein, où les choses se jouaient différemment, il y avait un moindre discours collectif, justement, parce qu'il y avait aussi des problèmes organisationnels dans cette association. Et, et des conflits importants. Et du coup, les nouveaux arrivants arrivaient dans une institution où il n'y avait pas de discours collectif. Et de ce fait-là, il y avait des positionnements beaucoup plus différenciés en fonction de leur trajectoire professionnelle et personnelle antérieure par rapport à cette question du certificat médical.
Et ils sont formés ? La question, c'est que quand on connaît la difficulté de la relation patient-toubib, tout bêtement, en tant que praticien, du point de vue du praticien comme du point de vue de la personne qui est en consultation, on sait bien que les médecins ne sont absolument pas formés dans leur cursus universitaire, ni à demander de l'argent, ni à opposer une parole, et encore moins à l'entendre, etc. Donc, pour le coup, est-ce que les médecins qui fonctionnent dans ces associations-là sont formés?
Alors, ils sont formés, d'une association à l'autre, ça varie. Et, je ne les connais pas toutes avec le même degré de précision. Mais pour certaines d'entre elles, ils sont formés comme sont formés d'ailleurs les conseillers à l'aide au dossier. Ils sont formés en suivant des personnes qui sont là depuis longtemps. C'est la manière dont se fait l'apprentissage, en fait. Donc, pendant un mois ou trois semaines, vous allez suivre quelqu'un, voir comment il procède. Vous pourrez poser toutes les questions qui sont soulevées. Bon, il se trouve, par exemple, dans une des associations, il y a aussi des écrits. Hein. Il y a un guide auquel on peut se rapporter, sur lequel on peut lire. Et après, il y a des explications qui sont fournies, des temps qui peuvent être consacrés à préciser certains éléments aux nouveaux entrants. Mais par exemple, là, c'était pas sur l'aspect médical, mais pour avoir été moi-même bénévole, les choses ont beaucoup évolué. Quand je parlais avec une ancienne bénévole, elle me disait quand elle était entrée dans l'association, elle n'avait pas eu de formation il y a 15 ans. Elle avait eu cette formation sur le tas, mais pas un temps de formation. Moi, quand je suis rentrée, on a eu 2 jours. Alors, c'est extrêmement juridique. La formation était très juridique. Mais il y avait déjà ce socle-là qui était important à connaître et qui était un temps de formation par rapport à 20 ans auparavant. Mmh. Donc, ces choses-là évoluent aussi dans le temps et d'une association à l'autre en fonction de la manière dont elle a pensé cette question, je dirais.
D'autres questions ?
Bonsoir. Moi, j'ai une question par rapport au... Vous avez parlé des agents de l'OFPRA et de la CNDA et de la façon dont ils appréhendaient les certificats. Est-ce que vous avez pu ou eu le temps de voir comment les avocats à la CNDA défendaient ou utilisaient ce certificat, en fait, pour défendre les demandes ?
Oui, je l'ai plutôt appréhendé, pas par un... Enfin, le terrain des avocats, je me suis posé la question, est-ce que je fais une enquête auprès des avocats ? Et puis en même temps, il fallait à un moment donné clore le terrain. Je ne pouvais plus, quoi. Mais c'était ça aurait mérité, parce que c'est un peu différent des acteurs associatifs, ils sont dans une position particulière... Mais j'ai pu l'appréhender à travers l'observation participante en tant que bénévole dans la permanence quand on sollicite un avocat. Donc bien souvent, quand on sollicitait un avocat, il y avait une demande quand même pour que si on pouvait et s'il y avait des séquelles physiques ou psychologiques, on incite la personne à faire une expertise. À avoir un certificat médical. Donc il y avait une demande des avocats. Après, il y a un usage stratégique dans une stratégie de défense, hein, c'est pas négatif que de dire ça, d'anticipation, en anticipant la manière dont un certificat va pouvoir être produit par les acteurs qui aident les demandeurs à défendre leur dossier. Par exemple, il y a des certificats et c'est pas du tout... Ça doit pas décrédibiliser la demande d'un demandeur d'asile que de... Enfin... mais qui ne seront pas utilisés parce que est certifiée une petite cicatrice. Et donc, dans une perspective de défense, on se dit, bon, si je suis face à quelqu'un qui n'accorde de l'importance qu'à un certificat qui établit de nombreuses cicatrices, peut-être que je risque d'affaiblir le dossier en utilisant ça. Mais il y a des tas de menaces de persécution qui ne laissent pas plus qu'une petite cicatrice. Et les médecins vous le disent d'ailleurs, ils vont déconseiller, les médecins dans leur discours vous le disent, ils vont déconseiller à quelqu'un Et c'est là où je vous dis que la figure de l'expert, impartial, etc., doit être déconstruite. Mais ils vont déconseiller à leurs patients de faire cette expertise médicale et de la produire devant les institutions parce que ça, c'est une petite cicatrice. Et pour autant, une petite cicatrice peut cacher des histoires très complexes de menaces de persécution. Mais dans la perspective de défendre un dossier et d'anticiper la manière dont pourrait être reçu un certificat, on utilisera plus ou moins ce certificat. De même, en dépit du fait que le savoir médical peut être reconnu et que... tous les certificats ne sont pas reconnus de la même façon. Il y a des institutions qui sont jugées par certains juges comme ayant une crédibilité plus grande dans la manière de produire leur expertise. Donc, du coup, c'est plutôt ces associations-là qui vont être sollicitées par les avocats pour, et donc parfois même avec... quelque chose contre lequel se battent les associations et se mobilisent, avec le fait qu'on va, du coup, alors qu'il y a déjà une expertise qui a été produite par un médecin qui suit, par exemple, le demandeur d'asile, tout près de son médecin traitant, qui l'a vu en de multiples consultations, qui est peut-être la personne qui appréhende le mieux sa trajectoire et qui a déjà fait un certificat, l'avocat va quand même envoyer dans une association spécialisée au nom de la réputation de cette association. Donc du coup, pour le demandeur d'asile, ça signifie encore repasser par ce processus de l'expertise.
Oui, j'ai bien apprécié votre façon de présenter, enfin la manière dont vous avez produit votre recherche. Et je trouve que vous avez bien montré l'importance que jouent, par exemple, des rencontres, des occasions que vous avez saisies. Quand vous dites, par exemple, vous avez eu de la chance de travailler avec telle association. Je dirais plutôt, vous avez su vous faire intégrer dans cette association parce que vous avez vu que c'était ça qu'il fallait faire. Je trouve que là, vous le montrez bien. Vous montrez bien comment vous vous êtes repositionné quand un livre, par exemple, vient de paraître. Voilà, vous savez rebondir. Et je crois que c'est ça qui était important dans votre façon de construire votre recherche. Et puis aussi de mettre un point final à un moment, arrêter et travailler avec. Parce qu'il y a tout le temps des choses nouvelles qui apparaissent, surtout sur ces questions. Et je trouve que vous avez bien montré aussi qu'à un moment, on arrête et on traite tout ce qu'on a accumulé pendant les années de recherche. Ça, c'est pour les étudiants qui sont ici que je fais ressortir un peu ce que vous avez dit. Et j'avais juste une question par rapport à ces certificats. Vous dites à la fin que finalement, ils sont, en étudiant l'évolution, ils sont finalement un peu standardisés, si j'ai bien compris, un peu banalisés, et qu'ils n'ont plus la même importance qu'autrefois. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a plus que la parole des demandeurs d'asile, alors, si les certificats qu'ils ont ne sont plus valables. Est-ce que c'est que la parole? Et alors, à ce moment-là, comment celle-ci est interprétée? Enfin, je pense que c'est là la grande question, finalement.
Alors, c'est une vaste question en 5 minutes. Mais effectivement, en fait, c'est un des paradoxes. C'est que c'est à la fois parce que la parole des demandeurs d'asile est moins entendue et qu'ils ont à faire valoir plus de preuves matérielles qu'il y a une montée de l'expertise médicale. Et c'est à la fois parce qu'il y a cette montée de l'expertise médicale
que les certificats se standardisent et en retour que ce qui pourrait différencier des demandeurs d'asile relèverait plus du registre de la parole, en fin de compte. Après, je crois que... mais là, j'ai pas. Enfin, je crois que justement, il faut que Karen Akoka dépouille les entretiens qu'elle a fait plus récents et qu'elle continue sur cette voie-là, parce que c'est elle qui a le plus de matière pour répondre à ces questions sur justement cette parole. Qu'est-ce qui fait qu'elle est entendue ou non, sachant que, de mon point de vue, à l'échelle collective, le certificat peut faire jouer un. Peut faire basculer un dossier dans un sens ou un autre, mais je pense qu'en dernier lieu, c'est quand même beaucoup le récit et l'interaction avec l'officier de protection ou les juges assesseurs qui vont peser dans le jugement. Hein. Mais les certificats, pour certains d'entre eux, va faire que s'il y a doute, on a un argument en plus pour défendre le dossier. Donc il est important quand même standardisé. Enfin, c'est relativement complexe à appréhender. Moi, je trouve que c'est déterminant, ces ficelles sociales, hein, ces déterminants sociaux du jugement sont extrêmement complexes à appréhender. En tout cas, c'est un paradoxe, effectivement, hein, que ce jeu entre la montée des certificats, la décrédibilisation de la parole et le fait que plus les certificats se standardisent, sont convoqués en nombre aussi, ils auront sans doute moins de poids, donc il y a un retour de la parole, mais comment celle-ci est entendue, sachant que tous les demandeurs d'asile, c'est un élément important, hein, dans le livre que je voulais approfondir, quoi. Tous les demandeurs d'asile n'ont pas les mêmes ressources langagière, corporelle, physique, pour faire un récit. Et ils ont un accès inégal aux associations qui peuvent les aider à produire un récit dans les normes culturelles des institutions bureaucratiques.
Moi, je vais conclure. Merci beaucoup, hein, vraiment. Merci à toi.
Merci à vous, surtout.
Je rappelle que la séance de la semaine prochaine, puisque maintenant les séances se rapprochent, sera le 18, hein, 17, jeudi, 17, pardon. Et nous recevrons Raphaël Branche, qui est une historienne spécialiste de la guerre d'Algérie. Et pour le coup, ça sera au Planétarium et les horaires ont un peu changé, puisque la conférence va débuter par la projection de son film et ensuite par le commentaire de la façon avec laquelle elle l'a construit, pensé à partir de ses travaux écrits, puis ensuite filmé. Donc ça commencera à 18h et pas 18h30. Je vous remercie de faire attention à cet horaire-là et ça se terminera un peu plus tard. Voilà, merci. Et pour les étudiants, merci de venir signer. Merci encore.